Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, quel régal de vous retrouver pour deux heures d'histoire décomplexée. Historiquement vôtre, c'est, vous le savez, chaque après-midi, une belle occasion de vous raconter l'histoire sans se la raconter. Et en joyeuse compagnie, bonjour Mathieu Noël.
Ravi Stéphane d'être votre joyeuse compagnie, il y a un côté demoiselle de compagnie que j'aime bien. Bonjour à tous, oui, chaque après-midi dans le studio Coluche, on réunit trois personnages historiques qui ont un point commun.
Oui, aujourd'hui Mathieu, ce sont des journalistes en vogue qui auraient pu se croiser dans les couloirs du célèbre magazine dont on célèbre d'ailleurs les 100 ans de la version française. Vogue Paris. Je vous raconte les vies de Lee Miller. Oui, elle en a eu plusieurs, et même à Vogue. Elle a posé pour la couverture en papier glacé avant de rejoindre les pages intérieures en tant que reporter pour réaliser avec son appareil photo des reportages souvent glaçants. Mais avant, je vous raconte Dorothy Parker, une journaliste en vogue qui a commencé en faisant des chroniques drôles et acides dans le célèbre magazine américain avant de devenir l'une des scénaristes les plus en vue aux États-Unis et de s'engager aussi, vous allez voir.
Tout ça, Stéphane, en présence de celle qui la raconte et lui redonne vie chaque soir sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin de Paris, dans Dorothy, et qui va nous accompagner durant cette première heure. Bonjour Zabou Breitman.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci à vous. Alors, la vie de Dorothy Parker, vous la connaissiez déjà par cœur ou
non?
Vous avez appris sur elle à cette occasion?
Alors, on connaît beaucoup la Dorothy Parker des années 40-50, celle qui était vraiment la devenue très très cynique et extrêmement drôle, mais très méchante. Et je préférais raconter celle des années 20-30, d'abord parce que l'inclure dans l'histoire me paraissait intéressant, parce que c'est l'histoire aussi de la prohibition et du vote des femmes. Et aussi parce que elle est moins, l'alcool n'a pas encore totalement imprégné le corps, ce qui fait qu'elle a encore la douceur quand même encore, ou l'énergie de la jeunesse. Là, elle écrit dans le Vanity Fair, elle a 25 ans, elle est très, quand même très très jeune, et cette jeunesse là garde lui fait garder un ton encore un peu, il y a encore un tout petit peu d'espoir, même si quand même elle est déjà, on sent très très noire et très vache, mais très très drôle.
Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez-vous le portrait à 99% vrai du journaliste tellement en vogue qu'elle le dirige toujours.
Oui, tout simplement Stéphane, la formule est belle. Je vous raconterai l'histoire incroyable d'Anna Wintour, cette journaliste qui fait la pluie et le beau temps dans le monde de la mode et qui avait été incarnée à l'écran par Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada. Une femme qui fait peur, c'est pourquoi Stéphane la surnomme dans l'intimité.
Ça lubrique, petite majesté.
Anna, si tu nous écoutes, c'est pas moi, c'est Stéphane qui dit n'importe quoi, évidemment.
Oui, oui... Je parlais pas d'elle. Enfin bref.
Mais
eux aussi,
mais
parfois, peuvent faire peur.
C'est ça le problème.
Pourtant, ils ne sont qu'amour et érudition.
Oui,
vous allez
oui.
voir, Zabou, ce oui. sont nos chroniqueurs. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour à tous. Vous ne croyez pas si bien dire. Sauf que cette fois, je ne vous emmène pas aux États-Unis, mais en France, dans le petit village médiéval de Sologne où mes arrière-grands-parents étaient instituteurs et directeurs d'école et où est née ma grand-mère maternelle. Vous allez me dire, on s'en fiche de votre arrière-grand-mère sologniole, Clémentine.
Oh non.
Sauf que le village en question s'appelle Mentoux-sur-Cher, que Zabou Breitman y a passé toute son enfance et que c'est à Mentoux que son père a puisé l'inspiration de l'inoubliable série télévisée dont il fut le créateur en 64 sous le nom de Jean-Claude de Rais, Thierry Lafronde. Et donc voilà l'histoire que je m'en vais vous raconter tout à l'heure.
Le scoop de fou quand même, Mentoux-sur-Cher, c'est improbable.
Mais vous allez y aller, je sens la vacherie qui va arriver, vas-y. Voilà.
Ils inventent des arrière-grand-mères, un peu des villages, des invités. Mais c'est une méthode, disaient les...
Ouais, c'est très malin.
Oh, mais je connais très
malin.
Bien
sûr. J'ai le même à la maison.
David Cassel-Lopez qui remonte aux origines d'une invention.
Oui, aujourd'hui c'est vraiment une invention, c'est le tapis roulant, vous savez, sur lequel on court dans les gymnases. Ça a des origines un peu tristes et je vous raconterai ça.
Hors antenne, on peut le dire à nos auditeurs, on a l'impression, quand je suis personnellement entré dans ce studio, Zabou Breitman a dit bonjour monsieur.
Oui.
Quand vous êtes entré dans ce studio, elle a dit David, mon David. Alors, on ne sait pas ce que vous avez fait tous les deux ensemble, on se pose des questions, voilà, on a envie de savoir.
Non, on a discuté régulièrement sur Instagram.
Comme ça.
Et voilà, mais on ne s'était jamais vu en vrai, donc ça fait plaisir.
Donc c'est plaisir. J'adore sa voix.
Oui.
Ah, aussi, on adore tous sa voix.
Il a une voix de radio. Alors, avec nous également, Olivier Pouls. Alors là, c'est ma recette, je le dis, parce que je n'ai pas parlé de mon arrière-grand-mère, mais en tout cas, ma recette préférée, les poireaux vinaigrés.
Ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors, je sais que Zabou Breitman, en plus, en connaît un sacré rayon en cuisine, qu'elle cuisine très bien. Alors, il ne va pas falloir raconter d'Annerie. Je vous raconterai les origines de cette recette bistrotière, voilà, des poireaux vinaigrettes. C'est délicieux quand c'est bien fait. Voilà. Question de température, tout ça, il faut bien gérer le contraste. Hein.
Enfin, cher Zabou, vous pensez certainement comme nous, avant de bosser avec lui, que Stéphane s'y connaît vraiment en histoire. À travers notre célèbre quiz Burn to be Alive, vous découvrirez que Stéphane est surtout un très bon acteur. Hein. Très bon acteur, et c'est vous, Zabou, qui l'affronterez dans un quiz spécial théâtre aujourd'hui.
Oh la vache.
Mais tout
là,
de suite...
Moi aussi, je suis nul.
Mais tout de suite, découvrons notre première journaliste en vogue de l'histoire que vous connaissez bien. Stéphane Bern nous raconte Dorothy Parker.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en 1915 sur Madison Avenue à New York. Une jeune femme exaltée fait irruption dans le bureau du directeur du prestigieux magazine Vanity Fair. L'un de ses poèmes vient d'être choisi pour apparaître dans la prochaine édition. Le début de la gloire. Alors, au culot, elle en profite pour demander un job. En guise d'entretien, elle lui demande « Si vous deviez rédiger une épitaphe pour votre urne funéraire, qu'écririez-vous » La réponse fuse « Excusez-moi pour la poussière. » Dorothy Rothschild a 22 ans. « Les Rothschild ?» lui demande-t-on. « Grand Dieu, pas ceux-là » répond-elle. Si elle a grandi à Manhattan dans une famille aisée, la jeune impertinente est loin de l'univers des riches banquiers. Elle a quitté l'école à 15 ans et désormais orpheline, vivote de leçons de danse et de piano. La nuit, elle écrit furieusement les vers et la prose qui lui passent par la tête. Chez Vanity Fair, il n'y a pas de place pour elle, mais chez Vogue, dans les bureaux juste à côté, on cherche une assistante éditoriale. Dorothy n'en demande pas plus. Vogue, c'est la mode, et la mode, voilà, quelque chose de très familier pour une jeune fille dont le père travaillait d'ailleurs dans l'industrie textile. Dans ce petit monde, Dorothy fait des étincelles. Elle est jeune, fougueuse, ambitieuse. Elle veut vivre avec ce nouveau siècle qui s'ouvre et en finir avec le puritanisme et les vieilles traditions de l'ère victorienne. Durant 2 ans, au Vogue, elle apprend le métier. Puis elle intègre la rédaction de Vanity Fair aux côtés de plumes prestigieuses comme l'écrivaine et collectionneuse de Gertrude Stein ou H.G. Wells, le père de la science-fiction moderne. À seulement 24 ans, Dorothy est nommée critique littéraire et théâtrale. En plus de ses avis sur les pièces et spectacles de Broadway, elle écrit une série de textes, les hymnes à la haine, petits bonbons de cruauté gratuite qui résument tout le talent et l'humour corrosif de leur auteur. Elle y étrille les comédiens qu'elle voit chaque soir sur scène, d'un « je hais les acteurs, ils bousillent mes soirées ». Et tous les membres de la famille, les uns après les autres. Il y a d'abord les tantes, même les meilleures d'entre nous en ont. Et puis les neveux, cette basse espèce de la vie animale. La lecture de ces textes est jouissive, si bien que les abonnés se ruent sur ces critiques avant tout autre article. À 25 ans, Dorothy est déjà célèbre. Elle a entre-temps épousé un agent de change de Wall Street qui lui a donné le nom de Parker. C'est sous ce patronyme, Mrs. Parker, qu'elle intègre la table ronde de l'Algonquin, un club informel qui tient son nom de l'hôtel sur la 44e rue où se réunissent les meilleurs journalistes et écrivains de New York. Dorothy court à l'heure du déjeuner pour retrouver ses talentueux amis et échanger des pensées spirituelles ou potaches sur la vie littéraire du moment. Là-bas, au milieu des hommes, tous plus âgés qu'elle, la jeune auteure brille par son ironie mordante, ses réparties bien senties et son avis tranché. Elle a tellement de finesse que ses proches la surnomment « the wit », l'esprit, tout simplement. Dans ses chroniques, Dorothy Parker se distingue par sa grande liberté de ton. Elle parle de tout, quitte à secouer le lecteur et le plus souvent à la première personne, ce qui bouscule les codes. Mais cette franchise n'est pas du goût de tout le monde. En 1920, Dorothy est renvoyée de Vanity Fair pour s'être payée la tête de la femme d'un annonceur, comédienne à Broadway. Heureusement, la journaliste peut compter sur sa notoriété pour enchaîner des piges dans divers titres de presse. Elle profite aussi de cette liberté retrouvée pour écrire des pièces de théâtre. De l'extérieur, tout semble sourire à la jeune prodige qui fréquente les stars de l'époque, Scott et Zelda Fitzgerald ou Ernest Hemingway. La réalité est plus sombre. La guerre finie, son mari est rentré d'Europe avec un souvenir traumatique des tranchées. Il se drogue et il boit. Dorothy aussi se met à s'enivrer plus que de raison. Elle n'écrit pas assez et elle a de la peine à se concentrer. La séparation est inévitable. Cet homme n'était pas à la hauteur de son intelligence, mais l'échec de son mariage affecte l'écrivaine. Dorothy se réfugie dans la fête, joue le jeu de la séduction, rencontre d'autres hommes, jusqu'à ce qu'un terrible chagrin d'amour lui coupe à nouveau les ailes. Elle tombe enceinte, avorte et se retrouve seule à errer dans son appartement, avec son chien, bouteille de scotch à la main, jusqu'à s'ouvrir les veines. Heureusement, Dorothy est sauvée. C'est convalescente qu'elle reprend l'écriture. Même dans son désespoir, elle ne se départit jamais de son humour. Au barman qui lui demande « Qu'est-ce que vous prenez ?» Elle répond « Oh, pas beaucoup de plaisir. » En 1925, Dorothy Parker participe au lancement du magazine The New Yorker, auquel elle contribuera pendant 30 ans. En 1929, elle reçoit le prestigieux prix O. Henry pour l'une de ses nouvelles. 3 ans plus tard, elle rencontre un acteur et aspirant scénariste, Alan Campbell. Avec lui, la New-Yorkaise se remarie et déménage à Hollywood avec un nouvel amoureux, donc, mais surtout un juteux contrat de 10 semaines avec la Paramount. Là-bas, Dottie enchaîne les scripts, une trentaine en tout, dont celui d'une étoile aînée, nominée aux Oscars pour le meilleur scénario. Elle collabore même avec le grand Alfred Hitchcock. En quelques années, l'indécrottable New-Yorkaise s'est fait une place au soleil. Elle est la scénariste la mieux payée d'Hollywood. Dorothy a tout pour être heureuse, l'argent, le succès, l'amour. Mais elle n'est pas femme à profiter tranquillement de sa vie dorée. La scénariste défend de plus en plus de causes politiques. Et en s'engageant publiquement, elle entre dans le collimateur du FBI. Sa liberté de ton, Dorothy s'apprête cette fois à la payer cher. En 1936, Dorothy Parker a cofondé la Hollywood Anti-Nazi League, que les autorités suspectent de communisme. C'est le début des ennuis. Quand elle fait quelque chose, la célèbre Mrs. Parker n'y va pas avec des pincettes. C'est donc corps et âme qu'elle se lance dans la création d'un syndicat d'auteurs que les producteurs de cinéma essayent à tout prix d'empêcher. Elle traverse aussi le pays pour réunir des fonds en faveur des républicains espagnols. À Hollywood, où l'on apprécie très peu ses penchants socialistes, Dorothy est soudain mal vue. Les contrats s'annulent les uns après les autres. Fidèle à son franc-parler, Dottie renomme la Metro-Goldwyn-Mayer la Metro-Goldwyn-Mayer en français dans le texte. Dans sa vie personnelle, Dottie n'a pas plus de chance. À 43 ans, alors qu'elle se sent finalement prête à être mère, elle fait une fausse couche. Sa relation avec Alan se dégrade. Ils finissent par divorcer au printemps 1947. Dorothy retourne à New York dans une énième chambre d'hôtel où elle se noie lentement dans l'alcool, oscillant entre des petits hauts et de très grands bas. 3 ans et un nouveau jeune amant plus tard, elle retrouve Alan, l'épouse une deuxième fois, mais poursuivie par le FBI, mise en cause par d'anciens collègues, elle est victime du McCarthyisme, cette chasse aux sorcières censée débusquer l'ennemi communiste interne à la nation. Elle ne travaillera plus jamais pour Hollywood. Dans les dernières années de sa vie, Dottie contribue à plusieurs magazines. En 1963, Alan meurt d'une overdose d'alcool et de barbiturique. Elle le rejoint 4 ans plus tard, après une crise cardiaque, en léguant tous les droits sur ses œuvres à Martin Luther King, qu'elle n'a pourtant jamais rencontré, mais dont elle soutient tous les combats. Dorothy Parker disparaît dans une telle solitude que personne ne songe à réclamer ses cendres, qui passeront plus de 20 ans entre l'étagère du crématorium et le tiroir d'un bureau de notaire. Après un long séjour près d'un parking de Baltimore, l'urne a tout récemment trouvé sa place dans un cimetière de New York. Une aventure très à l'image de Dorothy, romanesque, rocambolesque et émouvante jusqu'au bout.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Dorothy Parker, nous sommes toujours avec celle qui la raconte et l'incarne sur les planches du théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, la scénariste et actrice Zabou Breitman, Stéphane.
Oui, et Zabou Breitman, vous entamez justement votre seule en scène en racontant la folle histoire des cendres de Dorothy Parker. Même dans la mort, elle a réussi à être extravagante. C'est drôle et triste à la fois, un peu à l'image de sa vie.
C'est ça. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspirée pour travailler le spectacle, pour me dire, mais évidemment, il faut commencer par raconter ça d'abord. Et une fois qu'on a raconté ça et qu'on a finalement donné cette mémoire au spectateur, parce que le spectateur français connaît très peu Dorothy Parker, parfois pas du tout, et ça lui ressemble tellement que je trouvais formidable de commencer par ça, parce que ça a mis 48 ans entre entre ses cendres dans la petite boîte et l'enterrement absolu et final dans une sépulture digne de ce nom. C'est 48 ans, il s'est passé entre les deux. Ce qui est complètement absurde. Si elle avait su cette histoire-là, elle aurait adoré cette histoire-là.
C'est elle qui a payé la sépulture.
Alors, au début, ça a été la NAACP, donc l'Association pour la Défense des Droits Civiques des Gens de Couleur en Amérique, qui sont les héritiers d'après Martin Luther King, parce qu'elle l'avait déjà stipulé dans son testament. Elle ne savait pas que, quelques mois après sa mort à elle, il est assassiné, Martin Luther King. Et elle a stipulé, s'il meurt, ça ira à la NAACP. Mais elle est extrêmement visionnaire, elle est brillantissime.
Il y a aussi le message invraisemblable de drôlerie sur l'urne funéraire. Ouais. On a fait graver ces mots « Excuse my dust ».
Qu'est-ce que, alors, excusez-moi pour la poussière. Ouais. Ça, alors, on doit tout ça à un monsieur qui est guide touristique, qui s'appelle Kevin Fitzpatrick, qui est, grâce à lui, ça s'est passé. Il est parti en mission, ce monsieur. Il s'est occupé de cette urne. Pendant, il a attendu 14 ans une réponse de l'administration entre 2006 et 2020. Enfin, c'est là qu'il y a eu la réponse. Oui, bon, bah, d'accord, vous pouvez la déplacer de Baltimore au cimetière de Ludlow dans le Bronx, qui est un cimetière assez chic. Enfin, il y a plein de gens très connus. Et ce type-là, je le trouve merveilleux. Et donc, je communique avec lui. Et Kevin Fitzpatrick me dit, est-ce que les Français commencent à connaître? Parce que c'est ça qui l'intéresse.
Ouais,
il reste guide touristique, guide jusqu'au bout de sa vie. Et je lui dis, oui, ça y est, les gens commencent à lire, commencent à s'intéresser. Et c'est ça qui compte pour lui. Et je dois dire que c'est ça aussi qui compte pour moi. Mm-hmm. La faire connaître et la faire aimer. Mm-hmm.
Est-ce que, au fond, qu'est-ce qu'elle aurait pu écrire sur votre pièce dans les colonnes de Vogue?
Vous avez imaginé la critique.
Alors, j'imagine pas la critique. En revanche, le spectacle est totalement anticonformiste.
Donc ça l'aurait aimé.
Ça l'aurait aimé. Parce que on fait pas comme ça. On démarre pas. Je suis sur scène alors que les gens sont en train d'arriver. Je finis de vraiment, puisque je fais la régie sur scène, lumière et son, vraiment. Il y a personne qui l'a fait pendant à ma place, genre un peu en cachette. Non,
c'est vrai.
Oui, tout est vrai. Je finis d'organiser un petit peu le décor. Les gens sont là, regardent, disent mais elle est là, c'est bizarre. Donc il y a des gens qui me parlent, mais qui n'osent pas trop parce qu'il y a le fameux quatrième mur qu'on n'est pas censé franchir. Bah là si, on est dans l'histoire de l'intimité, pour rentrer dans l'intimité de Dorothy. C'est-à-dire que je pense que si on ne permet pas aux spectateurs cet accès normalement interdit à l'acteur sur scène, si je ne lui permets pas ça, je ne pense pas qu'on puisse permettre une ultra-intimité, on va dire. Et donc, plus ça va, plus le spectacle devient un spectacle. Et ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre. C'est pour rentrer le plus loin possible dans une vision qui est la mienne, évidemment. De toute façon, on ne fait qu'être subjectif quand on fait quelque chose. Mais l'idée, c'est qu'on puisse s'attacher à l'intimité de quelqu'un, de rentrer dans son intimité. C'était ça l'idée. Ouais.
Alors, Dorothy Parker, grande critique à la plume acide, on le disait, avait un jour écrit, Stéphane le racontait, je hais les acteurs, ils bousillent mes soirées. En ce moment, c'est elle qui bousille les vôtres. En réalité, c'est, j'imagine, un grand plaisir. C'est un personnage qui doit être très jubilatoire.
Oui. Il y a une des. Donc, ce sont des nouvelles sorties du New Yorker, donc, auxquelles elle avait participé. Et j'ai choisi donc des nouvelles, des petites nouvelles qui sont très, très jubilatoires à jouer, dans les époques entre 26 et 28. Vraiment, cette époque-là. Et j'ai pris une nouvelle aussi qui ne sort pas du New Yorker, qui s'appelle Le coup de téléphone. Donc, j'interprète ce qu'elle écrit, qui sont des personnages qu'elle n'est pas. Mais j'interprète aussi une fois elle, dans un dîner où elle s'emmerde à mourir, mais vraiment à mourir. Et on connaît tous ce dîner-là. C'est extraordinaire. À sa gauche, il y a un type, elle l'appelle le vieux poupon, qui ne lui parle que de ce qu'ils sont en train de manger. Et à sa droite, il y a un mec qu'elle ne voit pas parce qu'il parle à la fille à sa droite. D'accord ? Donc elle regarde, elle voit juste son épaule, elle le trouve très très beau. Elle trouve qu'il a une très belle épaule, une épaule de dieu grec. Elle l'adore, mais évidemment, il parle à la voisine de droite. Et elle est obligée de parler à son voisin de gauche. Et elle dit effectivement, ma soirée précieuse qui ne reviendra jamais. Foutu. C'est exactement ce qu'elle pense de sa vie. C'est-à-dire que pour elle hait la médiocrité, elle n'aime que des choses absolues et elle estime qu'elle ne peut pas perdre de temps. Rire de quelque chose n'est pas perdre du temps. Rire, c'est l'essence aussi de la vie. Mais perdre du temps, c'est-à-dire avoir l'esprit écrasé par le rien, par la bêtise, pour elle, c'est perdre sa vie, c'est mourir. Elle a l'impression qu'elle va mourir, quoi. Et ça, c'est... Ça, c'est elle. Et je l'ai mis, ce morceau-là, au milieu, au centre, à peu près du spectacle. Et entre, je raconte l'histoire un peu de l'Amérique de ces années-là et des femmes de ces années-là. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que donc, elle est très alcoolique, tout le monde, on parle d'alcool tout le temps, mais on est en pleine prohibition aux États-Unis à ce moment-là. Mmh. C'est complètement dingue. Et elle ne parle que de ça.
Oui,
et
vous parlez surtout de la prohibition, du droit de vote des femmes,
enfin
des choses. Cela dit, vous parlez qu'elle elle a touché un poison qui l'a ruinée, et c'est l'alcool. Elle jugeait à la fois les autres en disant « ils me font perdre ma soirée », et elle s'est perdue elle-même.
Oui, j'ai l'impression que ce sont des ultra-lucides, des extra-lucides. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire des gens qui ont une telle, dans la finesse de, de son analyse des rapports humains, on se dit qu'elle voit tout à la loupe, et que ça doit être en fait infernal, quoi. Et que pour supporter, je pense qu'elle boit, pour supporter cette extra-lucidité, on ne peut pas vivre comme ça de manière absolue tout le temps. Et, enfin, on ne peut pas. Si, on peut, mais ça donne des très grands artistes, évidemment, mais des artistes hors normes dont elle fait partie.
Vous racontez qu'elle était de tous les combats, la misogynie, l'homophobie, l'antisémitisme, la xénophobie, mais chaque fois à sa manière. En quoi elle croyait, finalement ?
Alors, justement, elle croit en l'être humain, mais pas l'être humain. Elle croit en l'être humain.
Une version idéalisée de l'être humain.
Oui, qui utilise tout son cerveau. Elle n'aime pas le gâchis, elle a l'impression qu'on gâche les choses. Et qu'un combat, ce n'est pas une posture pour elle. Un combat, c'est efficace, c'est concret. Elle fait des choses concrètes. Elle va au bout des choses. Mais ce n'est pas parce qu'elle va évidemment lutter contre l'homophobie qu'elle ne va pas dire de son mec qu'il est pédé comme un bouc. C'est ça qui me fait mourir de rire.
Les boucs sont pédés.
Gay like a goat, en anglais, c'est gay like a goat. Parce que gay like a goat, ça sonne bien quand même.
Ah oui, c'est juste pour ça, je pense.
Mais ce que j'adore, c'est qu'elle ne va pas s'empêcher, à mon avis, de faire des blagues limites, comme on dit, mais qui ne sont pas des blagues limites. On peut rire de tout, pas avec n'importe qui, mais ce ne sont pas des... elle va vraiment s'amuser comme une dingue. Elle n'a pas de posture vis-à-vis des gens de couleur en Amérique, comme on dit. En revanche, elle s'autorise toutes les blagues. En revanche, elle va tout léguer à Martin Luther King. Mais personne n'a jamais fait ça. Et ça a vraiment fait un scandale. Ça a fait un scandale aux États-Unis en 67, mais ça a été épouvantable. Les gens étaient horrifiés qu'une blanche ait fait ça. C'est la première fois.
Elle a un côté quand même, quand on vous écoute, désabusé, presque cynique aussi.
Un peu cynique, Je pense qu'elle est un peu cynique. Alors, oui et non, pas tout à fait. Je pense qu'elle essaie de le sauver, mais enfin, dans les dialogues, il y a toujours une personne... En fait, c'est des problèmes de communication. Dans tout son... Si on fait un dénominateur commun, on a l'impression qu'il y a toujours un problème de communication, de solitude, d'isolement, impossibilité de communiquer, quoi. C'est sur la communication. La solitude est totale, quoi.
Alors, elle a eu une vie très riche, elle a connu le succès, elle a connu l'amour, elle a connu l'argent. Mais est-ce que, d'après vous, elle a quand même été heureuse ou en fait, elle n'a jamais vraiment atteint le...
Oh, je pense qu'elle a été heureuse quand elle était amoureuse.
Mais uniquement quand elle était amoureuse.
Et quand elle avait de l'inspiration. Mais sinon, quand on la voyait au bar, je ne sais plus qui est venu la voir au bar de l'Algonquin, elle était en train de picoler. Elle dit vous n'êtes pas en train d'écrire. Elle dit non, le stylo était déjà pris. C'est tout de suite, quoi. C'est-à-dire que cet esprit hyper rapide devait la stimuler comme une drogue, quoi. Hein. Et en fait, après, je pense qu'il n'y a que l'amour. Il y a quelque chose de piaf là-dedans aussi. Elle a quelque chose de bouleversant et de... Elle devait aimer, mais trop. Enfin, trop. Pas trop, mais son
de
dernier...
De façon absolue, toujours.
Oui, et donc, ne laissant aucune place à rien d'autre. C'est invivable, quoi, en fait.
Mais
c'est
invivable. Notre amour pour vous est aussi absolu, cher Zabou Breitman. Vous restez donc avec nous. Et on va passer cet après-midi d'Historiquement Vôtre avec vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui sont parfois des histoires de famille. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, avec Zabou Breitman, qui est notre invité de famille. Les questions, puisque vous nous parlez du personnage de la série mythique, Thierry Lafronde, et de sa fiancée.
Oui, absolument, Stéphane, car c'est à Mentoux-sur-Cher, où Zabou Breitman a passé bien des vacances, je suppose, que son papa a eu l'idée de créer cette série, Thierry Lafronde, une série créée en 64. Et peut-être que pour commencer, on pourrait entendre quelques notes de l'inoubliable musique de Jacques Loussier, que tous les enfants des années 60 ont encore en tête.
Ah oui, j'adorais. C'est plus que le club Dorothée, vous voyez, Thierry Lafronde.
C'est quand même... une autre chose que les Dragon Ball, je sais pas quoi, de David Castello-Lopez. En tout cas, bref, le père, le grand-père de Zabou Brightman était médecin à Romorantin et il a été maire de Mentoux-sur-Cher. Il y a un square, Lucien Brightman à Mentoux-sur-Cher. Et c'est la famille de Zabou Brightman qui possédait un prieuré qui a donné son nom au village. Vous saviez ça
Non, Zabou, Modesto
oui, exactement, parce que c'est la fille de Clotaire Ier qui a fondé le village au VIe siècle. Elle y a établi un prieuré et le nom de Mentoux, oui, vient de Monastellum.
Petit, ah, Monastellum, Monesto,
petit,
bien
petit
sûr.
Monastère qui a donné Monesto, puis Mentoux. Et elle a habité là. Et Jeanne d'Arc aussi, figurez-vous. Elle aurait passé la nuit dans le prieuré, chez vous, donc. De même que bien plus tard, Charles IX.
Pas la même époque, faut préciser.
Pas la même époque. Oui, mais enfin, c'est vrai, quand on aime l'histoire. Non, mais quand on aime l'histoire, savoir qu'un grand de ce monde a dormi chez vous, c'est émouvant. Vous verrez quand vous aurez du beau monde à Thiron-Gardet, si ça ne vous fera pas de l'effet. Bon, il y a également Charles IX accompagné de sa maman Catherine de Médicis, qui aurait dormi. Exactement, elle aurait dormi dans le prieuré aussi. Mais en fait, donc, c'est l'histoire médiévale de Mentoux qui a été une source d'inspiration pour Thierry La Fronde. En fait, en 1356, le roi de France, Jean le Bon, est battu à Poitiers et il est fait prisonnier par Édouard, prince de Galles, dit le prince noir. Et Mentoux sur Cher tombe aux mains des troupes du prince noir, dirigé par le connétable de Chandos, qui pille, ravage, occupe cette région déjà pauvre qu'il est resté. C'est d'ailleurs là, est-ce que vous saviez que c'est à Mentoux qu'il y a la ferme des Delpech, d'où venait Michel Delpech?
Je savais, oui.
Ouais,
je savais
mes grands-parents allaient acheter des asperges et les vôtres. Ah, mais c'est
un achat dans le Loir-et-Cher, oui.
Bon. Enfin, bref, donc, les jeunes chevaliers français essaient de secouer le joug anglais et voudraient aller délivrer leur roi. Parmi eux, Thierry de Janville, qui, pour avoir nourri un tel projet, est dénoncé par son ennemi juré, Messire Florent, et condamné à mort. Donc, il s'enfuit, il va en forêt, il constitue une troupe de compagnons.
C'est notre Robin des Bois.
Exactement, c'est notre Robin des Bois. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, la jeune fille dont il tombe amoureux, qu'il finit par épouser au bout de 52 épisodes, s'est montré opiniâtre, c'était votre mère, Zabou, la comédienne québécoise Céline Léger, et qui donc s'appelle Isabelle. J'ai lu d'ailleurs que vous auriez participé à quelques épisodes quand
j'ai
vous étiez petite.
J'ai fait un épisode, j'ai joué dans un épisode.
Mais vous étiez toute petite, vous vous en souvenez quand même?
Je me souviens, oui, parce que je ne comprenais pas pourquoi, quand je l'ai vu à la télé, je ne comprenais pas pourquoi c'était dehors alors qu'on avait tourné dedans. Non, ça c'était du studio, en fait. Voilà.
Il y a des scènes de Thierry Lafonte qui ont été tournées à Mentoux-sur-Cher. Et dans la vraie vie, la réalité, Mentoux a été effectivement occupé par les Anglais pendant 14 ans et libéré en 1370 par l'armée du Guesclin. Donc c'est un tout petit village, mais où il s'est passé bien des choses. Il reste des traces amusantes de cette occupation d'ailleurs. Il y a je ne sais pas si vous le savez, ça, Zabou, mais la rue qui mène à la porte du château, elle s'appelle la rue de l'Agate, comme la pierre. Et moi, je me souviens d'y avoir été avec mon grand-père qui me disait que ça n'a rien à voir avec l'Agate, la pierre, mais tout à voir avec le mot gate, parce qu'à l'époque où Mentoux était occupé, gate, c'était la porte, naturellement. C'était l'époque où on appelait les Anglais les Godons, parce qu'ils s'exclamaient souvent God damn it, ou Dieu le damne, ou tout simplement bon Dieu. Et l'ironie du sort, c'est que bien des années, bien des siècles après, Mentoux sera à l'époque moderne un des hauts lieux du passage de la ligne de démarcation qui est marquée à cet endroit par le Cher. Enfin, je ne voudrais pas conclure cette brève évocation de Mentoux-sur-Cher sans signaler qu'elle est une des patries de l'andouillette. Et que comme telle, elle est sans doute l'un des seuls villages de France à disposer d'un distributeur automatique d'andouillette juste à côté de chez vous pour pouvoir éviter le manque et vive l'andouillette.
Vive l'andouillette,
c'est ce que c'est beau comme conclusion.
C'est une belle conclusion philosophique.
Je trouve ça assez bouleversant.
Bravo. Merci Clémentine.
Merci. Et je vous dis à lundi, parce qu'aujourd'hui le quiz est un petit peu spécial. Oppose Stéphane à notre invité, Zabou Brightman.
Elle a déclaré forfait sur le théâtre.
Europe 1. Historiquement vôtre.
C'est d'ordinaire le choc des historiens, Stéphane Bern contre Clémentine Portier-Kaltenbach, opposés dans un quiz fratricide et, il faut le dire, pervers. Mais aujourd'hui, puisque nous avons la chance de passer l'après-midi avec Zabou Brightman, c'est un mano à mano entre deux immenses comédiens que nous vous proposons. D'un côté, donc Zabou Brightman, inoubliable dans La Crise, Cuisine et Dépendance et bien d'autres. De l'autre, Stéphane Bern, inoubliable dans Meurtre en Lorraine.
Oh les mains.
Non.
Jouons ensemble non.
Pas insulter non plus les concurrents. Oui.
Stéphane, la première question n'est pas pour vous aujourd'hui, puisqu'on a un invité. Donc, Zabou, la première question est pour vous.
Oh, je suis nulle. Allez-y.
Je ne sais pas si vous connaissez David Tennant, grand acteur britannique de théâtre. Il a eu plusieurs récompenses pour son Hamlet en 2008. Il faut dire que la scène avec le fameux crâne a été jouée avec un véritable crâne, celui de son éminent professeur de théâtre décédé 15 ans plus tôt. Vrai ou faux ?
Faux.
Vous le savez ? Ou vous répondez au hasard ?
Non, non, je c'est pas possible.
C'est pas possible. Elle répond faux.
Vous avez...
Stéphane, apprenez au contact de nos invités de talent. Oui, c'est faux, mais David Tennant, qui a joué également dans Harry Potter et Doctor Who, a bien joué avec un véritable crâne, celui d'Andrzej Tchaïkovski, pianiste polonais fan de Shakespeare, qui en avait émis le souhait. Assez rapidement, le crâne a été rangé, les médias ne parlent que ça, et le public était manifestement trop perturbé par cette funeste présence, un véritable crâne. Donc ça, donc quelque part...
Ah, c'était pas si loin que ça.
C'était pas si loin que
non,
ça.
Non, non, non.
Question numéro 2 pour vous, Stéphane. Essayez de répondre aussi vite que Zabou, parce que souvent avec Stéphane, ça prend beaucoup de temps avant d'avoir une réponse. Le mot « robot » a été prononcé pour la première fois de l'histoire en 1920, et ça s'est passé dans une pièce de théâtre. Vrai ou faux, Stéphane ?
Je crois que c'est plus ancien.
Zabou Breitman me fait des signes de la bouche.
Robot.
Je ne sais pas ce que ça indique.
Je crois que c'est dans une pièce de théâtre, mais j'ai un doute sur l'année.
Vous pensez qu'il y aurait un piège dans la date ?
Oui.
Et ce n'est pas une contre-pétrie.
Ah, je vois qu'avec Zabou, on est sur la même longueur d'onde, ça me plaît. Oui, non,
c'est dans, une pièce, c'est dans un texte. Ça, je sais que c'est un texte.
Ah, bah, ça, c'est dans un texte, oui, Stéphane.
Oui, mais c'est comme ça que c'est apparu. C'est pas apparu à la radio, vous voyez.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Je vais dire vrai, allez.
Vous avez envie d'y croire à cette histoire ?
J'ai envie d'y croire.
Vous avez.
Eh bien, c'est une bonne réponse. La pièce de théâtre, c'est R.U.R., Rur, écrite par le tchécoslovaque Karel Kapek. En fait, c'est son frère Joseph qui a inventé le mot à partir de robota, qui signifie travail en tchèque. Un partout, c'est très bien. C'est un quiz de très haut niveau aujourd'hui. Question numéro 3 pour vous, Zabou. Ne parlons plus de crâne, mais parlons plutôt du poêle dans lequel Landru a brûlé ses malheureuses victimes. En France, au théâtre, on a joué une pièce avec ce fameux poêle, le vrai, sur la scène. Vrai ou faux ?
Moi, elle est vraie. Je sais pas. J'imagine que c'est vrai.
Vous avez...
Non, c'est bizarre.
Perdu.
Alors non, Zabou, on n'a pas joué avec le poêle de Landru sur la scène.
Pourquoi que des trucs de mort ? Vous me filez le vieux crâne et
le poêle. Parce que c'est... Oh, bon, c'est
quoi
votre alors c'est ma passion. Alors là c'est le alors c'est là, excuse-moi, c'est le camembert qui dit Roquefort tu putes. La passion de Stéphane dans la vie, c'est les supplices médiévaux.
C'est vrai. Voilà. Mais bon, ça là, c'est en privé.
On comprend.
Oui, en privé.
Là, moi aussi ça pourrait me plaire.
Alors pourquoi cette histoire de poil ? C'était pas très loin. En fait, ce qui est vrai, c'est qu'il a été exposé dans le hall du Théâtre Marigny alors qu'on y jouait une pièce sur Landru de Laurent Ruquier.
Oui.
C'est lui qui, fan du personnage, fan de sa légende, en tout cas, l'avait acheté pour le mettre dans sa maison de campagne.
Oui.
C'est sympa, et les week-ends chez Laurent Ruquier. Question numéro 4 pour vous, Stéphane. Stéphane, vous pouvez l'emporter, ce qui n'arrive pas tous les jours. La Souricière est une pièce de théâtre écrite par Agatha Christie qui est jouée à Londres non-stop depuis sa création en 1952. Quand on assiste à cette pièce, on doit s'engager à ne pas en dévoiler la fin. Et comme la pièce n'a pas été publiée en livre, impossible encore aujourd'hui d'en connaître le dénouement. Vrai ou faux ?
Je crois que... Il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Mais...
Ouais.
Quel dommage que vous ne puissiez répondre que vrai ou faux. Et non pas...
Il y a quelque chose
entre
dire.
Les deux.
Je veux dire que c'est vrai.
Vous avez... Perdu.
C'est faux, Stéphane, il suffit de regarder sur Wikipédia. Mais avant Wikipédia...
Mais on avait envie, c'était romanesque.
Mais j'avais entendu cette histoire. Avant Wikipédia, dans nos jeunes années, effectivement, on ne pouvait pas connaître la fin,
exactement.
Sauf en allant voir cette pièce. Nous arrivons à la question numéro 5 qui va vous départager, puisque nous sommes à égalité. Question numéro 5, c'est un quiz de rapidité. Je donne 3 propositions. Vous me dites 1, 2 ou 3
fonction
de la proposition, mais le plus rapidement possible, une fois que j'ai énoncé toutes les propositions.
Oh la vache.
Je ne sais pas si vous en étiez, Stéphane, mais en 55 avant Jésus-Christ, le Gotha romain s'est bousculé pour l'inauguration du théâtre de Pompée, du nom du fameux consul. Pour marquer le coup, qu'est-ce qu'on y a fait pour cette inauguration ? 3 propositions. On a sacrifié 500 lions, on a fait venir 500 méretrices, comprenez des travailleuses du sexe, ou on a fait venir 500 joueurs de lyre.
1.
2.
Jésus, Marie, Joseph, c'est Stéphane qui remporte le quiz ! Je suis désolé, Zabou ! Stéphane a vu juste, on
J'aime
a tué...
J'aimais bien l'idée de 500.
Ils n'étaient pas encore une espèce protégée.
On a tué 500 lions, bien joué Stéphane, ça a mis 5 jours. Ce sacrifice devait apporter la bénédiction des lieux. Le théâtre se situait sur le Champ de Mars de Rome, au nord-ouest du centre historique de la ville. C'est une belle victoire. Stéphane, vous auriez pu être courtois.
Il ne peut pas s'en empêcher, c'est un gagneur.
Un compétiteur dans
l'âme. J'offre ma victoire à Zabou. Voilà.
C'est magnifique. Merci Zabou Breitman d'avoir été avec nous cet après-midi. C'était un immense plaisir, un plaisir qu'on peut partager sur scène dans la pièce Dorothy que vous avez écrite et que vous jouez au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris jusqu'au 23 octobre. Et bientôt en tournée aussi, j'imagine, Zabou.
Oui, bientôt en tournée. On a quelques dates là tout de suite. Donc à Antibes, je fais une petite échappée de la Porte Saint-Martin. Je vais jouer à Antibes ce soir. Et ensuite, on a un petit peu autour de Nice, un petit peu Monaco. Et l'année prochaine... là-bas, j'ai une tournée qui commence et qui va être, à mon avis, une super belle tournée. Je suis très contente.
Merci encore d'avoir été avec nous, Zabou.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, cette émission qui fait la part belle à la rigolade tout en vous cultivant avec aujourd'hui des journalistes épatants.
Oui, mais pas nous Mathieu, nos personnages, des journalistes en vogue. À l'occasion des 100 ans du magazine Vogue Paris en partenariat avec Europe 1, on réunit des dames qui ont inscrit leur nom dans l'histoire internationale de ce magazine. Après, la journaliste, chroniqueuse et scénariste Dorothy Parker, je vous raconte la folle vie de la photographe Lee Miller, qui s'est affichée en une du magazine Vogue américain en tant que mannequin avant de signer des photos sur des terrains de guerre une fois reporter, mais du côté des British.
Quant à moi Stéphane, je me pencherai sur la contemporaine de l'étape. Elle vit toujours, elle terrifie toujours. 10 ans après le film Le Diable s'habille en Prada, mais que devient Anna Wintour, la légendaire patronne de Vogue? Et surtout, quel regard porte-t-elle sur mon look? Déjà que Karl Lagerfeld n'avait pas été tendre.
C'est immonde Mathieu, vous avez vraiment un goût de chiotte.
Je vous avoue que je flippe un peu d'entendre la vie d'Anna Wintour.
Sans oublier nos chroniques.
Oh, vous avez repris votre voix normale, incroyable.
Oui, c'est
très rapidement, comme ça,
c'est permis. Oui, enfin, ça va. C'est... Je vous demande de vous arrêter, c'est insupportable. Alors, David Castro-Lopez, vous nous racontez les origines du tapis de course roulant.
Exactement.
Une chose immonde que les pauvres font pour aller.
Il est parti.
Vous n'avez qu'un courrier comme tout le monde à Central Park. Vous
part, part de plus en plus au quart de tour.
Exactement. Mais c'est vrai, je n'ai plus rien à ajouter. Je vais vous raconter effectivement ce truc de pauvre.
La blague était bonne, on va la prendre. Mais oui.
Qui consiste à courir sur des tapis roulants dans des gymnases au lieu de courir à Central Park ou dans son propre parc aussi.
Oui, ça c'est encore mieux. Le poireau vinaigrette, Olivier Poul, c'est-il un plat de pauvre?
C'est un plat qui est tout à fait modeste, oui, c'est pas très... Sauf, mon cher Mathieu, quand vous agrémentez la vinaigrette de truffes en saison, ce qui est évidemment délicieux.
Mais sinon, des œufs mimosa, pardon.
Oui, on peut effriter les œufs durs, mais je vous donnerai quelques petits trucs et astuces, notamment pour la vinaigrette.
Ne nous excitons pas, ce n'est que le sommaire. Nous parlons de ces poireaux vinaigrettes tout à l'heure. Alors, les deux prix séparément font peut-être envie, mais malheur à celui qui essaierait de manger des poireaux vinaigrettes sur un tapis de course. Oui. Le résultat serait assez moche, presque aussi moche que la lutte finale, ce quiz pernicieux qui, chaque après-midi en fin d'émission, remet les compteurs de l'amitié à zéro entre Pouls, Castello et moi. Rendez-vous vers 6h-10. En attendant, découvrons notre deuxième journaliste en vogue de l'histoire. Elle a été mannequin, puis reporter. Une sur papier glacé pour commencer, puis des clichés glaçants pris sur le front qui ont fait sa notoriété. Du Vogue américain au Vogue anglais, Stéphane Bern nous raconte la folle vie de la journaliste photoreporter en vogue, Lee Miller.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes le 30 avril 1945 dans un appartement munichois. Une jeune femme se lave nue dans une baignoire. A priori, rien d'extraordinaire, sauf que la salle de bain est celle d'Adolf Hitler et que la femme est la photographe américaine Lee Miller. Sur le tapis de bain blanc sont posés ses godillots militaires, pleins de poussière des camps de la mort qu'elle vient de traverser. Elisabeth Miller est pourtant née loin de l'Allemagne, à Poughkeepsie, exactement dans l'état de New York en avril 1907. Elle connaît une enfance marquée par le drame, un viol alors qu'elle n'a que 7 ans et une atmosphère particulière à la maison où son père, photographe amateur, aime à la faire poser nue, enfant, adolescente et jeune adulte. La scolarité de la jeune fille est chaotique. Elisabeth est souvent renvoyée des établissements qu'elle fréquente. Il faut toutefois reconnaître que ses parents ne font pas de distinction de genre entre elle et ses frères et la poussent à assumer son goût pour la technologie et la chimie. Deux disciplines encore considérées comme peu féminines. À 18 ans, Lee part pour un an d'études à Paris avant d'intégrer l'Art Student League de New York l'année suivante. Parallèlement, elle danse dans une revue et devient un mannequin lingerie pour un magasin de la 5e Avenue, car la jeune femme est belle, incroyablement belle même. Un jour, le destin place sur son chemin un grand éditeur de presse. Son nom,
Condé Nast. L'homme la retient alors qu'elle s'apprête à traverser la rue sans voir qu'une voiture arrive à vive allure. Subjugué par son physique, il lui propose immédiatement de poser pour le magazine Vogue dont il est le directeur. Un mois avant son 20e anniversaire, il y fait donc la couverture du prestigieux magazine américain. À l'époque, on ne met pas encore de photos en une. Son visage est donc dessiné, peau diaphane, lèvres rouges, sous un chapeau cloche bleue à la dernière mode, assorti à son regard profond. Mais Lee n'est pas entièrement à l'aise dans le rôle de mannequin. Elle ne veut pas être qu'un objet sous les yeux des autres. Alors pendant les séances, elle observe de plus en plus les techniques des photographes. Elle a envie de passer derrière l'objectif. Quelques mois plus tard, Lee Miller repart pour Paris, le cœur vibrant du monde de l'art. Elle y va pour rencontrer Man Ray, le photographe d'avant-garde déjà célèbre pour ses collaborations avec Marcel Duchamp et ses œuvres dada. Dans un café, elle ose l'aborder. « Lee Miller, je suis votre nouvel élève. » Man Ray n'en prend pas. Mais comment dire non à cette jeune femme si audacieuse ? Lee devient son modèle, son élève, puis très vite son amour et sa muse. Il la photographie sous tous les angles. Ensemble, ils travaillent, redécouvrent par erreur le procédé de solarisation et le rayogramme qui leur permettent les créations les plus surréalistes. Devant leur objectif défilent l'effervescent milieu artistique de Montparnasse. Lee joue pour Jean Cocteau, fréquente Paul Éluard. Plus tard, elle posera à plusieurs reprises pour Picasso. Au début des années 30, Elisabeth quitte Man Ray et Paris. À New York, elle fonde son propre studio avec une certitude. « Je préfère prendre une photo qu'en être une », dit-elle. L'affaire ne survit pas longtemps. Elle part pour le Caire avec un businessman égyptien qu'elle épouse. Cette histoire-là non plus ne dure pas. À 30 ans, Lee Miller est de retour à Paris. Nouvel amant, le peintre britannique Roland Penrose. Nouvelle destination, l'Angleterre. Quand éclate la guerre, Lee est à Londres. Elle pourrait regagner les États-Unis, s'y mettre en sécurité, mais rien ne l'effraie, pas même les bombes qui commencent à tomber sur la capitale anglaise. Lee est, à force d'obstination, embauchée par le Vogue anglais, qui compte pourtant déjà dans ses rangs l'un des plus grands, Cecil Beaton. Nous sommes en janvier 1940, et pendant les premières années de la guerre, Miller immortalise des femmes puissantes dans les pages mode ou dans des reportages sur l'effort de guerre. La pénurie des tissus et des matières premières l'oblige à une plus grande créativité, avec un objectif, réconforter le lectorat et l'aider à garder le moral. Pour le gouvernement, Lee documente le Blitz, les raids aériens allemands qui détruisent Londres. Un mois après le débarquement, elle part pour la France avec une accréditation de reporter de guerre. Dans le sillage de l'armée américaine, elle découvre toutes les atrocités du conflit. Elle assiste au siège de Saint-Malo, à la libération de Paris, continue son voyage vers l'Est jusqu'à entrer dans les camps de la mort. Buchenwald, Dachau, des images terribles qui ne la quitteront jamais. Horrifiée, la photographe saisit immédiatement l'importance de relever le maximum de preuves des crimes nazis. Quelques jours plus tard, elle est donc à Munich. Et le jour du suicide de Hitler, elle prend ce fameux bain dans la baignoire de son appartement. Lee est devenue GI, dit David Sherman, photographe de Life, avec qui elle arpente l'Europe sans montrer aucun signe de fatigue. Dès la fin du conflit, pourtant, Lee Miller revient à la photographie de mode. Elle est à Paris en 1945 pour signer la campagne de la créatrice Elsa Schiaparelli. Encore une amitié datant de ses années parisiennes. Mais le contraste entre ce qu'elle a vécu et la vie d'avant est trop difficile. Les sujets sur la mode et la décoration ne la passionnent pas. En réalité, elle souffre d'un trouble de stress post-traumatique. Pour s'apaiser, elle boit avec excès. Puis elle découvre qu'elle est enceinte. Son petit garçon, Anthony, naît en 1947. Deux ans plus tard, Lee et Roland Penrose achètent une ferme dans le Sussex, au sud de l'Angleterre. À Farley's House, la photographe goûte à une vie normale, ou presque. La maison accueille régulièrement tous les amis artistes du couple, Picasso, Man Ray, Jean Dubuffet ou Dorothea Tanning. Progressivement, Lee délaisse ses appareils photo pour les poêles et les marmites. Cuisiner la calme l'aide à combattre la dépression. Mais même derrière les fourneaux, Lee Miller reste une artiste surréaliste. Dans ses casseroles, le poulet devient vert, les pâtes bleues. Lee se met même au défi de cuisiner des repas en utilisant des aliments d'une seule couleur. Ses desserts colorés prennent le nom poétique de tapis persan. Plusieurs de ses recettes sont publiées, dans Vogue évidemment. Ce sera là sa dernière carrière. Lee Miller s'éteint en 1977, à l'âge de 70 ans, au terme de plusieurs vies fascinantes.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur Lee Miller, nous sommes avec l'historienne de la photographie Clara Bouvresse. Bonjour Clara.
Bonjour.
Bonjour Clara Bouvresse, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Femmes photographes aux éditions Actes Sud, dans lequel vous présentez 160 femmes photographes, dont Lee Miller bien sûr. D'abord, on a envie de savoir ce qu'elle faisait dans la baignoire d'Hitler le jour de son suicide. Oui. Il faut que vous nous expliquiez cela.
Effectivement, elle était logée au poste de commandement de la division américaine à Munich avec son compagnon de voyage qui était le photographe David Sherman de Time Life. Et donc ils arrivent dans l'appartement qui leur a été assigné. Et cet appartement n'a rien de particulier, si ce n'est qu'il remarque quand même que l'argenterie est ornée par des croix gammées et les initiales AH, comme Adolf Hitler. Donc ils comprennent qu'en fait, ils sont dans l'appartement munichois d'Hitler. Et c'est là que cette photographie a été prise. C'est simplement l'endroit dans lequel il logeait à ce moment-là.
Vous le disiez, cette scène a été l'objet d'une photographie restée célèbre. Qu'est-ce que Lee Miller voulait montrer à travers ce cliché ? C'était une sorte de victoire, de revanche.
Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la victoire symbolique, puisque cette photographie est prise le jour de la mort d'Hitler. Elle montre la nécessité de se laver après avoir traversé le camp de concentration. Elle disait, et c'est ce que disent beaucoup de témoins, que l'odeur de la mort qui s'imprégnait dans les vêtements et sur la peau et qui n'arrivait pas à la faire partir. Donc c'est une façon de montrer ce besoin symbolique de se laver après cette expérience traumatisante. Et effectivement, la photographie a ensuite beaucoup choqué et fait débat parce qu'elle a été jugée inappropriée, que c'était une forme de... Peut-être que c'était un peu dans l'esprit d'une provocation surréaliste, mais c'était peut-être inadapté face à un sujet aussi grave.
Stéphane l'a raconté, pendant la Seconde Guerre mondiale, Lee Miller est devenu reporter de guerre pour l'édition anglaise de Vogue. Et quelle est l'importance de ces photos pour la mémoire de l'Holocauste ?
Comme vous le disiez, je pense que c'était vraiment le besoin d'une forme d'urgence du témoignage. C'est-à-dire que quand elle a visité le camp, elle a écrit un télégramme à l'éditrice de Vogue à l'époque qui disait « Je vous implore de croire que c'est vrai ». C'est-à-dire que pour les gens qui découvraient cette horreur, ça paraissait presque impossible. Et donc à ce moment-là, évidemment, quand on est photographe, on se dit « Je dois en rendre compte, je dois apporter la preuve de ce qui s'est passé ». Et je pense qu'aujourd'hui encore, ces photographies jouent ce rôle de preuve pour nous également.
Quand Lee Miller commence à publier ses photos dans le magazine Vogue anglais, c'est déjà un journal de référence. Elle a tout fait pour y être intégrée. Tout le monde voulait en être. Et pourquoi est-ce qu'elle a été choisie ?
Absolument. Donc elle est arrivée à Londres et elle a essayé de rejoindre les équipes de Vogue, mais il n'y avait pas besoin de nouveaux photographes. C'était Cécile Beaton qui était un photographe lui aussi, qui dirigeait ce département. Et il n'y avait pas besoin de photographes en plus. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle y allait tous les jours pour se rendre utile, se faire connaître et creuser un peu son sillon. Ensuite, il y a des photographes qui ont dû rejoindre les troupes ou bien travailler comme reporter, et ça a libéré un peu de place, et c'est là qu'elle a réussi à obtenir cette position.
Alors justement, Lee Miller côtoie, vous l'avez dit, des grands noms de la photo dans les rangs de Vogue, notamment Cécile Beaton. C'est vraiment à l'époque le photographe star du moment, lui.
Oui, c'est un grand portraitiste qui est très connu pour avoir été le photographe officiel de la reine Elisabeth II. Et c'est aussi un grand photographe de mode. Il avait un style très sophistiqué, avec des mises en scène hyper stylisées. Cela dit, en fait, Lee Miller n'appréciait pas du tout Cécile Beaton, qu'elle trouvait vaniteux. Et d'ailleurs, quand il est arrivé à Paris au moment de la libération de Paris, elle était déjà là et elle travaillait beaucoup. Elle avait un gros rôle de coordination des reporters sur place. Et puis Cécile Beaton, qui était un peu le chef, s'est mise à la traiter comme une assistante. Ça ne lui a pas plu du tout.
Oui, parce que Lee Miller s'est professionnalisée à partir des années 30. Quelle était la place des femmes dans le domaine de la photographie à ce moment-là ?
Il y avait beaucoup, beaucoup de femmes photographes dans tous les secteurs, donc le journalisme, la mode, la publicité, la photo expérimentale, artistique, scientifique. En fait, à cette époque, la photo, c'est quand même assez nouveau. C'est pas un domaine qui est codifié, institutionnalisé, et donc c'est un domaine qui est encore ouvert pour les femmes, où il est possible de trouver son chemin. Donc il y a beaucoup de femmes photographes, même si elles n'ont pas forcément la même visibilité ensuite que les hommes photographes.
Lee Miller a été tour à tour photographe de mode et reporter de guerre, deux genres qui n'ont évidemment rien à voir, mais est-ce qu'on peut définir son travail, son style ?
Mais déjà, on peut dire qu'elle ne voulait pas se cantonner au rôle d'assistante. Elle n'hésitait pas à mettre la main à la pâte. Alors déjà, avec Man Ray, ils ont fait plein d'expérimentations. C'est comme ça qu'ils ont redécouvert la solarisation. Quand elle avait son studio à New York, elle avait vraiment une grande exigence de qualité de ses images pour attirer une clientèle recherchée. Et donc, elle manipulait les images pour obtenir le rendu souhaité. Et puis, ce qui est intéressant avec Lee Miller, c'est qu'elle a aussi écrit. Donc, au moment où elle est devenue reporter, elle produisait des reportages photos et textes, avec des textes pleins d'esprit, assez personnels, qui racontaient vraiment. On est dans la peau de Lee Miller et on arrive à la suivre sur les théâtres d'opération.
Et justement, vous le rappeliez à l'instant, et je l'avais dit dans mon récit, Lee Miller a côtoyé Man Ray à Paris. Et elle est influencée, au fond, par les artistes surréalistes qu'elle a côtoyés.
En fait, c'est même plus qu'une influence, parce qu'elle va les inspirer en retour. Elle est la muse de plusieurs artistes. Donc, c'est comme une forme de conversation artistique avec Man Ray. Ils ont vraiment expérimenté et conçu des photographies ensemble. Par exemple, il y a une photo très connue où on voit son profil avec son cou et son menton, très flou. Qui est un portrait de Lee Miller, c'est Man Ray qui l'a fait. Il l'avait mis de côté, c'était pas une image qu'il trouvait intéressante, et c'est elle qui l'a récupéré, retravaillé, agrandi pour en faire une de leurs images les plus connues et qui a vraiment été fabriquée à deux.
Vous racontez dans votre livre qu'elle a fait aussi le portrait de nombreux artistes. Qui est passé devant son objectif alors ?
Ah bah alors, plein de gens connus qu'elle fréquentait. Donc, il y a évidemment Picasso à plusieurs reprises. Il y a aussi Anthony Tapies, Juan Miró. En fait, Lee Miller, elle a fait ses portraits. Ils étaient publiés dans Vogue. Elle écrivait également des textes qui racontaient sa relation avec ces artistes.
Merci beaucoup, Clara Bouvresse. Je rappelle que votre livre « Femmes photographes » est disponible aux éditions Actes Sud. Enfin, je précise qu'à l'occasion des 100 ans de l'édition française du magazine Vogue, le Palais Galliera à Paris présente en ce moment une très belle exposition qui retrace son histoire Vogue 1920-2020. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque des journalistes en vogue. Après Lee Miller, Mathieu, vous nous brossez le portrait, bon à 99% vrai, d'une journaliste en vogue depuis plus de 30 ans. Anna Wintour.
Alors tout d'abord, les amis, j'aimerais m'excuser auprès de nos auditeurs pour mon inculture crasse en matière de mode. Quand j'ai connu Stéphane, j'évoluais dès les premières chaleurs estivales en claquettes chaussettes. J'étais clairement du côté obscur du style. Il m'a vraiment sorti du ruisseau à bout de bras. Quand il m'a vu la toute première fois flanqué de mon éternel sweat Célio informe, il s'est dit...
Je savais qu'il fallait pas que je vienne.
C'est vrai qu'entre moi, David et ses derbies marrons en ubuque à semelle caoutchouc et Pouls qui pense que Balenciaga est un traiteur italien, les mal tombés, le Stéphanou. Mais le contraste entre moi et mon patron aurait pu être encore plus fort si au lieu de bosser avec Stéphane, j'avais bossé avec Anna Wintour. Anna Wintour, qui contrairement à nos autres personnages du jour, n'est pas seulement en vogue, elle est vogue. 30 ans qu'elle dirige le plus célèbre magazine de mode du monde. Élégante, énigmatique, glaciale, intemporelle, elle est décrite par ses proches comme un mix d'Hillary Clinton et de Dark Vador. C'est elle, bien sûr, qui a inspiré le personnage interprété par Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada. Extrêmement abrupte, voire cassante, Anna Wintour est de ces personnages binaires on-off. Vous voyez, soit elle aime et alors elle adore, soit elle déteste et alors là, elle exècre le truc en question. Fiche signalétique rapide, Anna aime les avocats qui se mangent, les autres avocats, ceux qui ne se mangent pas, Roger Federer, le café, les plages naturistes et Oliver Twist. Elle n'aime pas les horoscopes, le brocoli et les gens qui s'habillent en noir de la tête aux pieds. Thierry Ardisson, Amélie Nothomb et David Castello-Lopez l'insupportent. Perpétuellement cachée derrière des lunettes de soleil Chanel qu'elle possède en une cinquantaine exemplaires, elle affiche pour toute faute de goût un mépris instantané et irrévocable. Vous voyez Stéphane, ce stagiaire que vous avez viré l'autre jour parce qu'il s'est pointé au bureau avec un t-shirt Rammstein et que, je vous cite, vous ne supportez pas qu'on affiche ses accointances
avec le régime nazi.
Il a eu beau tenter de vous expliquer que Rammstein n'était pas un groupe nazi, le mal était fait, il a dû prendre la porte. Eh bien Anna, elle est comme vous. Elle veut que tout le monde autour d'elle soit impeccablement vêtu. Autre point de détail, qui n'en est pas un pour elle, le réglage de la clim. Ça doit être au quart de degré près. Et ça doit être 20,5 degrés, pas plus, pas moins. Quand l'assistant clim fait mal son job, elle peut être aussi infecte que Stéphane quand le studio n'est pas pile poil à la température contractuelle fixée dans son contrat.
Alors, oh là, mais il fait chaud aujourd'hui dans le studio. Ah, Seigneur.
Ah, Seigneur, c'est pas facile de travailler avec des cons. Alors, comment devient-on capricieux?
Nous, on n'exige rien, vous savez bien.
Vous dites toujours qu'il fait chaud. Comment devient-on...
Oui, mais vous avez vu, exprès, vous êtes à moitié tout nu, là.
Ah, c'est pas tout nu, c'est un t-shirt.
Oui,
c'est
un t-shirt, une... oui.
Il est très très moulant, c'est ça que vous voulez dire.
Non, mais voilà, c'est indécent.
Comment devient-on plus capricieux que Stéphane Bern ? Anna naît le 3 novembre 1949 à Londres. Son père, Charles Wintour, est l'ancien rédacteur en chef du magazine Evening Standard. Je vous ai décrit sa fille comme un personnage assez froid. Eh bien, à côté de son père, c'est une baraque à gaufres liégeoises. Charles Wintour est surnommé par ses collègues de l'époque Chili Charlie, soit Charlie le glaçon, si vous voulez. Anna est donc élevée dans un ice bar où les sentiments sont là, oui, mais tout au fond du freezer, entre les Captain Igloo et les Cornetto. Elle évolue dans un milieu bourgeois, fréquente des établissements privés très stricts, mais Anna sait déjà très jeune ce qu'elle aime et n'aime pas. Dès l'âge de 14 ans, elle adopte sa célèbre coupe au carré qu'elle porte encore aujourd'hui. Entre Dora et effectivement Mireille Mathieu, un casque capillaire qui deviendra sa marque de fabrique. La mode la passionne. À 15 ans, elle décroche son premier boulot dans une boutique de luxe. À 16, elle abandonne ses études, déterminée à transformer ce monde de gueux en un monde de raffinement et de bon goût. En 1970, elle fait ses débuts dans le journalisme de mode et intègre la rédaction britannique du magazine Harper's Bazaar. Puis, en 1975, elle décrète que les roast beefs sont irrécupérables en matière de style. Elle s'envole pour New York avec son mec du moment. Alors, je vous préviens, ne vous attachez pas à son mec du moment, elle change de mec tout le temps. Elle arrive donc au pays de Donald Duck, un canard sans pantalon, je vous le rappelle, c'est dire s'il y a du bolo quand elle arrive en termes de mode. Grâce à son compagnon John Bradshaw, elle décroche son premier poste de rédactrice en chef mode au magazine Viva. C'est inespéré, sauf que 3 ans plus tard, le magazine met la clé sous la porte et Anna se sépare de John. Elle décide de faire une pause dans sa carrière et de se taper Bob Marley. Oui, je vous prends par surprise, mais c'est vrai. Anna Wintour et la légende du reggae auraient eu une liaison, la plus lunaire de toutes les relations amoureuses du showbiz, durée une semaine. Pour se remettre de sa rupture avec Bob, Anna s'envoie en l'air avec Eric Idle des Monty Python avant de se lasser de l'humour british. C'est en 1980 que la direction de Vogue la repère et décide de créer un poste spécialement pour elle. Ce sera directrice de création. Elle jubile, change encore de mec. Cette fois, elle décide de jouer au docteur avec un célèbre pédopsychiatre, David Schaffer, qui a une belle réputation dans le monde médical, mais aussi dans le monde plus interlope de l'échangisme new-yorkais.
Il est surtout très drogué.
Ce qui ne gâche rien. Il se marie en septembre 84 et trouve le temps de faire deux gosses alors même que Anna continue de gravir les échelons chez Vogue, dont elle devient rédactrice en chef États-Unis. Une idée du budget vestimentaire qui lui est alors alloué annuellement. On est dans les années 80.
150 000 dollars ?
200 000 dollars.
Oh.
200 000 dollars, ça en fait des slips français kangourous, mon Stéphane. Sa patte, eh bien, un esprit avant-gardiste. En 1988, elle décide par exemple de mettre en une de Vogue une femme noire.
Ah non, mais ça me choque, je suis très choqué.
Eh ben, à l'époque, oui, à l'époque, oui, Stéphane. Mais c'est la réaction des gens à l'époque, c'est ça qui est fou aujourd'hui. Parmi ses marques préférées, Chanel, donc, Saint Laurent, Dior et Vacheron Constantin. Vous connaissez Vacheron Constantin, David ?
Je crois que je confonds avec le
oui,
Vacheron.
C'est les montres
bien,
suisses.
Le personnage, ah oui, vous connaissez visiblement,
bah oui,
Stéphane.
Quand même,
oui, c'est
aussi,
une bonne marque.
Vous
oui,
aussi,
certes, oui. Mais je n'ai pas de montre. Le personnage qu'elle inspire dans le film Le Diable s'habille en Prada, adaptation du livre de Lorraine Weisberger, son ancienne assistante, l'a fait connaître du grand public comme une patronne glaciale et impitoyable. Ses réelles équipes chez Vogue parlent de faux procès, certainement un couteau sous la gorge, comme nous quand on dit « Oh, Stéphane Bern, c'est un amour ». Ce qui participe du succès du personnage, c'est aussi la rafraîchissante franchise d'Anna Wintour qui n'hésite pas à dire quand quelque chose ou quelqu'un ne lui plaît pas. Je vous livre une seule citation pour vous donner une idée. Kim Kardashian est la pire chose qui ait existé depuis les sandales avec les chaussettes. Ça, c'est fait. Sa vie est en revanche d'une monotonie presque fascinante. Le réveil sonne à 5h30, elle retrouve ensuite son coach sportif.
Contraction, relâchement. On a le périnée en pleine forme.
Des échauffements périnéaux suivis d'une leçon de tennis. À 8h, arrivée au bureau, elle défonce quelques assistantes, boit un Starbucks en envoyant des mails. Son déj, c'est saumon fumé et œufs brouillés tous les jours. Tous les jours le même plat, une routine millimétrée. Par exemple, si jamais vous l'invitez un jour à un événement, ne vous vexez pas si elle se casse au bout de 20 minutes. Elle ne reste jamais plus de 20 minutes aux soirées et se couche, quoi qu'il advienne, à 22h15.
Ah bah ça, elle donne envie de passer la soirée.
Ça donne envie de la connaître. Mais Anna fourmille de nouveaux projets qu'on devrait découvrir bientôt, puisque selon mes informations, elle devrait donner dans les mois qui viennent une interview exclusive à Paris Match.
Vous pensez qu'elle va parler de moi ?
Je ne vois pas comment on pourrait évoquer la mode en 2021 sans parler de vous. C'est évident, elle devra forcément en dire un mot.
Mais non.
Est-ce que vous la connaissez, Anna Wintour ?
J'ai rencontré, oui. Et elle a un assistant qui s'appelle Léon Talley. André Léon Talley, et qui un jour a fait une chose dans un dîner à New York. Il fait une tonne 5, si vous voulez, il faut imaginer, il fait 2 mètres, il est énorme, etc. Il s'est assis sur le Yorkshire de la maîtresse de maison.
Ah. Il est mort sur le coup, bah oui.
Et en partant, il a acheté le chien dans le truc à parapluie. Vous avez... Et c'est au bout d'une semaine.
Mais non,
l'odeur pestilentielle.
Parce que personne ne s'en est rendu compte.
Mais non, personne ne s'en est rendu compte. Elle a cherché son toutou pendant une semaine. Moi, ça m'a C'est à la fois, ça m'a fait de la peine et pour le chien, et en même temps, ça m'a fait tellement rire.
Bien sûr. Oui. Bon, c'est là qu'on est quand même content de bosser avec vous, Stéphane, oui. Et pas avec Anna Wintour.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Ces journalistes en vogue pour retrouver d'autres journalistes en vogue.
Oui, à leur manière. Olivier Pouls, vous nous racontez l'histoire d'une recette aujourd'hui, les poireaux vinaigrettes.
Oui, je vous parlais de ce grand classique des bistrots parisiens.
Lui, il est à la pointe de la mode. C'est David Castello-Lopez, Stéphane. Aujourd'hui, le tapis de course roulant.
Oui. En décembre 2015, j'avais 34 ans et j'étais dans un hôtel dans l'Iowa, aux États-Unis. Et il y avait une salle de fitness, comme souvent il y a dans les hôtels. Et je me suis motivé. Je suis descendu à la salle de fitness et j'ai couru sur un tapis roulant qui était une des seules choses disponibles. Et au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai commencé à ressentir une douleur inédite au genou droit et j'ai dû arrêter de courir. Et je ne le savais pas, mais cette douleur, c'était une sorte de début de la fin. Parce que plus jamais depuis, je n'ai plus courir plus de 20 minutes sans être pris de cette même douleur insupportable au genou. Et donc, le tapis roulant de salle de sport, il sera associé jusqu'à ma mort au jour où j'ai cessé d'être jeune. Alors, comme une sorte de petit hommage funèbre à ma jeunesse, je vais vous raconter les origines du tapis roulant. Bon, il faut le dire, même quand ça fait pas mal, courir sur un tapis roulant, c'est infiniment chiant quand même. Hein. C'est les secondes qu'on passe sur un tapis roulant, ce seront parmi les secondes les plus lentes du monde.
C'est une télé, allumée.
Oui, c'est vrai.
Oui, ça aide.
Mais c'est quand même parmi les secondes les plus lentes du monde. Je pense juste derrière les secondes qui précèdent immédiatement à l'école le dernier jour avant les vacances. Vous voyez la sonnerie. En plus, le truc, c'est que contrairement à cette sonnerie, à ces secondes-là à l'école, il n'y a pas de récompense à la fin du tapis roulant, à part peut-être la vague impression qu'on a augmenté son espérance de vie de quelques minutes, mais c'est tout, quoi. Vous voyez.
Il y a les calories qui s'affiche.
Oui, voilà, il y a un petit truc comme ça.
Et puis, vous pouvez écouter des livres audio, par exemple.
Oui, c'est vrai, mais on peut aussi le faire sans courir, recherche. Ça, c'est vrai que c'est...
Ou des podcasts de cette excellente émission historique.
Mais c'est vrai que dans l'ensemble, le tapis roulant de salle de sport, c'est comme une torture d'ennui. Et vous savez quoi ? Eh bien, au départ, c'était exactement ça, un instrument de torture par l'ennui. Alors, pour en savoir plus sur ces origines que je viens de dévoiler un tout petit peu, il faut aller en Angleterre au début du 19e siècle. Dans l'Angleterre du début du 19e siècle, il y avait beaucoup de choses nulles, hein, vraiment très 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 nulles. Mais un des trucs les plus nuls de ce pays nul à ce moment nul, c'était les prisons. Bon, aujourd'hui encore, hein, les prisons, c'est des endroits moins bien que les autres endroits, hein, c'est un peu le principe. Mais vraiment, les prisons anglaises du début du 19e siècle, c'était chaud. Vous faisiez une connerie, soit on vous tuait en vous pendant, soit on vous arrachait des ongles, soit on vous envoyait brûler sous le soleil dans un bagne sous les tropiques. Et à l'époque, il y a un certain nombre de gens de gauche, comme par exemple Charles Dickens, qui ont dit « ce serait cool qu'on améliore le sort des prisonniers quand même ». Et parmi les choses qui ont été proposées pour améliorer leur sort, il y avait le principe du tapis roulant comme façon, disons, un petit peu plus humaine de punir les prisonniers et de les faire réfléchir au fait qu'il ne fallait pas tuer les gens ou tout simplement qu'il ne fallait pas être homosexuel hein, parce qu'on était dans l'Angleterre du début du 19e siècle. Alors ces tapis roulants, ils étaient assez différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était des sortes de gigantesques cylindres très très longs avec des marches dessus. Il y avait une douzaine de prisonniers à la fois qui se mettaient en ligne sur le cylindre. Ils mettaient leurs pieds sur une marche, ça faisait tourner la roue, ce qui les obligeait à mettre un pied sur une seconde marche, etc. Et bien sûr, toute cette énergie gratuite, elle n'était pas perdue. Elle servait soit à pomper de l'eau, soit à moudre du grain à la manière d'un moulin classique. Donc, du point de vue de la prison, c'était du win-win, si vous voulez. On torturait les prisonniers de façon plus humaine. Et en plus, on pouvait faire des pâtes sablées avec la farine qu'ils produisaient. En moyenne, les prisonniers, ils devaient faire 6 heures de tapis roulant par jour.
Ah, mais c'est bon pour leur santé.
Mais pas vraiment en fait, parce que peut-être un peu pour le corps.
Voir.
Mais ce dont les gardes à ce moment-là avaient conscience, c'est que la torture, elle venait pas du fait que c'était difficile à faire, parce qu'ils marchaient, vous voyez. Elle venait, comme je l'ai dit, de l'ennui infini de la chose. Parce que l'ennui à petite dose, c'est pas désagréable. À haute dose, l'ennui, 6 heures par jour, ça peut vous donner envie de vous jeter par la fenêtre. Et c'était ça, la torture du tapis roulant. Alors, au début du XXe siècle, le travail pénible de ce genre-là, il a été interdit dans les prisons occidentales, y compris donc le tapis roulant. Mais le tapis roulant, il est revenu à partir des années 20, discrètement, comme accessoire de fitness, puis comme accessoire médical pour contrôler le rythme cardiaque des gens et pouvoir mesurer leur pouls et la façon dont leur cœur réagit. Mais le vrai succès, disons, contemporain des versions qu'on connaît, il date du boom du jogging dans les années 70-80. Moi, c'est un succès qui me paraît un petit peu bizarre, et peut-être que ça paraît aussi un petit peu bizarre à ceux qui le conçoivent, parce que récemment, il y a eu des innovations qui ont été apportées au tapis roulant pour le rendre un petit peu moins chiant. Bon, on a parlé du fait qu'on peut regarder la télévision, on peut mettre son iPad, tout ça. Mais maintenant, ces dernières années, il y a une entreprise américaine qui s'appelle Swift et qui propose de courir à l'intérieur d'une sorte de jeu vidéo.
Bah oui.
C'est-à-dire où finalement, votre tapis roulant, c'est comme une manette de jeu, et ce que vous y faites, la vitesse en particulier où vous y courez, est appliquée à un personnage qui se déplace sur un écran et qui peut en dépasser d'autres, etc. Donc ça devient ludique. Quoi qu'il en soit, pour moi, je vous l'ai dit, c'est fini. Moi, je ne peux plus courir, donc je vais regarder les autres s'ennuyer et attendre la mort tranquillement.
Je ne peux pas m'y résoudre, David. Je ne peux pas vous laisser comme ça sur le bord du chemin. Il n'est jamais trop tard pour
J'ai fait un bilan postural.
C'est votre genou qui a une fragilité ?
On ne sait pas ce que c'est. On m'a dit, c'est votre posture, j'en sais rien.
Faites du vélo qui n'avance pas, c'est pareil.
Oui, peut-être, mais
c'est tout aussi chiant.
Je peux faire d'autres sports, hein. Je peux faire du basket, du tennis, etc., mais je ne peux pas faire, je peux pas courir, quoi.
Merci
David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Il n'a plus fait de jogging depuis le 3 mars 1993. Olivier Poul, c'est notre expert gastronomique.
Comment vous avez retrouvé la date exacte?
Je me souviens, parce qu'on en parle encore dans la région quand vous avez fait ce fameux jogging. Olivier, depuis, vous consommez pas mal de calories, c'est même votre métier, de nous parler de l'histoire des recettes qui font notre patrimoine gourmand. Aujourd'hui, c'est le poireau vinaigrette.
Oui, c'est une recette qui, justement, là, pour le coup, ne contient pas trop de calories. Vous allez pouvoir manger tout à fait à votre faim ce soir sans avoir trop de risques de grossir. Donc, le poireau vinaigrette, le poireau vinaigrette, ça fait partie de ces grands plats classiques français bistrotiers aux côtés du céleri remoulade, de l'œuf mayonnaise, des carottes râpées, des harengs pomme à l'huile qui ont fait la grandeur des bistrots. Et de ce qu'on appelait les bouillons à Paris, qui étaient des restaurants, des établissements dans lesquels on pouvait se restaurer de manière relativement simple, peu onéreuse. Et il faut savoir que ces bouillons qui sont apparus à la fin du 19e siècle ont été, durant le 20e siècle en tout cas, jusqu'à la moitié du 20e siècle, très populaires. On a compté jusqu'à 250 de ces bouillons dans Paris. Et donc dans ces bouillons, on trouvait notamment le poireau vinaigrette. Alors le poireau, lui, d'où vient-il ?
Oui.
Mais il faut savoir qu'il est symbole de victoire chez les Égyptiens qui en mangeaient. Il était consommé largement par les Romains. D'ailleurs, il y a un empereur romain, Néron, qui était surnommé le porophage, tellement il mangeait de poireaux. Il avait une passion absolue pour les poireaux, mais alors il ne mangeait pas vinaigrette parce que la vinaigrette n'avait pas encore été inventée à l'époque.
Quelle tristesse, tous ces poireaux ingurgités en vin.
Voilà, et la vinaigrette, elle est arrivée beaucoup plus tard, elle date probablement du 18e siècle et elle serait apparue en Angleterre, figurez-vous, ce petit mélange entre l'huile, la moutarde et évidemment le vinaigre. Donc la date exacte de la création du poireau vinaigrette, on ne l'a pas, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est que ce sont les bouillons et les bistrots parisiens qui, dès le début du XXe siècle, ont totalement popularisé ce qui est une entrée ou un plat qu'on peut agrémenter de différentes manières, et je vais y revenir dans un instant, et qui revient à la mode, comme tous ces plats un peu canailles. Alors, pour faire ce fameux poireau vinaigrette, que vous faut-il ? Des poireaux, bien évidemment. Et il faut savoir que les poireaux, c'est ce qu'on appelle une plante bisannuelle. Il y a 2 pouces. Et il faut, pour les poireaux vinaigrettes, prendre des petites pousses, qu'on appelle des petits poireaux, quand ils sont encore tout tendres, tout jeunes.
Ah, on n'achète pas des gros poireaux ?
Non, plutôt des petits poireaux crayons, c'est meilleur.
Enfin, moi, je prends toujours les plus gros.
Prenez des petits. Bon, pour la vinaigrette, de l'huile d'arachide, de la moutarde, du vinaigre de cidre.
Pourquoi de l'huile d'arachide ?
L'huile d'olive. L'huile d'olive sur un poireau vinaigrette,
c'est pour le poireau, d'accord.
Elle est un peu trop marquante. Et je trouve qu'avoir une belle huile d'arachide, ça peut être sympa aussi. Une petite pincée de sel, poivre, et puis évidemment de la ciboulette, une échalote ciselée, et pour apporter de la texture, des petits croûtons de pain. Et pour faire plaisir à Stéphane, on pourrait prendre un œuf dur qu'on va émietter.
Oh, oui, oh là, c'est bon.
Alors, tout d'abord, la cuisson des poireaux, très
important.
Oui, parce
que la question, c'est la différence de température écoles. Du poireau et de la vinaigrette.
Et oui, alors, première école, en tout cas celle que je préfère pour la cuisson du poireau, c'est à la vapeur. Hein, environ 7 minutes au cuivre-vapeur, parce que ça, il faut le garder, il faut qu'il soit bien cuit, hein, mais il faut garder en tout cas
un petit peu de
texture. À la cuisson à l'eau, je trouve qu'on a tendance à les détremper. Si on le fait à l'eau, en revanche, il faut bien les presser pour enlever l'eau. On monte la vinaigrette de manière classique, c'est-à-dire on commence par la moutarde, dans laquelle on rajoute ensuite le vinaigre
et enfin
l'huile pour émulsionner le tout, sel, poivre. Et puis, il faut garder les poireaux à température ambiante. Très important, jamais de frigo pour les poireaux parce que ça casse le goût. Donc, température ambiante et puis la vinaigrette qui, elle, évidemment, est un petit peu plus fraîche. Et on va terminer en disposant les croûtons de pain pour donner le croquant. Et pour faire un plat complet, on va effriter un œuf dur par-dessus.
Ouais, on est très coquin.
Un plat là, qui prend un tout petit peu de calories, mais qui reste extrêmement digeste. Et en tout cas, extrêmement classique.
Le problème, c'est que ça n'est que l'entrée. Et puis après, on a la blanquette de veau derrière. Quoi.
Bah,
c'est,
évidemment.
Si on est coquin jusqu'au bout, c'est comme ça.
Et un Paris-Brest en dessert.
Bah, évidemment, on ne va pas repartir comme ça, les mains vides. Bon, eh bien, merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Et on vous retrouve demain, autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte, de 11h à 12h30 sur
Historiquement vôtre.
Après le succès de l'émission de notre enfance, David, pas de pitié pour les croissants, Europe 1 vous présente Pas de pitié pour les trois cons. Titre alternatif, la lutte finale.
Oui, la lutte finale, c'est un quiz de questions d'histoire. Alors Olivier Pouls, sa première question est pour vous. Histoire du cinéma, Spielberg a touché et touche encore une partie des droits de Star Wars. Vrai ou faux?
Est-ce qu'il a été... Je pense qu'il a été à l'origine, mais les droits ont été vendus maintenant, me semble-t-il, à Disney. Mais je pense qu'il doit probablement encore en avoir un petit morceau. Je vais dire oui.
C'est une bonne réponse. Et oui, pendant le tournage de Star Wars, George Lucas reçoit la visite de Spielberg. Ce dernier est en train de tourner Rencontre du troisième type. Persuadé que Spielberg va faire un carton et pas forcément lui, George Lucas lui propose de « Je te donne 2,5% des recettes de mon film, tu me donnes 2,5% des recettes du tien. » Marché conclu. Alors, les deux films ont eu du succès, mais Star Wars beaucoup plus. Et ce petit pari a fait gagner Spielberg 40 millions de dollars.
Pardonnez-moi Stéphane, mais je dépose un double recours. Je suis un peu avocat aussi. Je veux dire, il y a deux choses qui ne vont pas. C'est que Olivier Poul pensait que vous lui parlez de George Lucas, puisqu'il a, a fait référence aux droits. Ben, si vous avez référence aux droits vendus à Disney.
Oui. Non, mais je savais que Lucas.
Spielberg, Spielberg n'a pas réalisé La Guerre d'Étoiles.
Je savais ça parfaitement. Ouais. Mais évidemment que c'est George Lucas qui l'a réalisé.
Oui, mais alors pourquoi Spielberg? Vous n'avez pas dit pourquoi Spielberg aurait des droits?
Parce que je pensais bien qu'à un moment, il avait dû aider.
Non, vous n'en aviez aucune idée, monsieur Poul. Vous n'en aviez aucune idée.
Non, je pensais qu'il avait aidé son copain.
D'autant que c'est faux, Stéphane, puisque c'est mon deuxième recours, les droits ont été intégralement cédés à Disney, ce qui fait qu'aujourd'hui, la question était formulée ainsi, aujourd'hui, Steven Spielberg n'a plus de droits, il en a eu à une époque, il n'en a plus aujourd'hui, tout appartient
sur
à Disney.
Sur ma fiche, j'ai marqué vrai. Donc c'est vrai.
Ah bah sur la fiche,
c'est un scandale.
La fiche a toujours
c'est
raison.
C'est un scandale, mais comme j'applique aussi cette règle pour mon propre quiz, nous dirons d'accord.
Okay. David Cassé-Lopez, alors là, c'est une question très précise. En 1835, le drapeau de la France était blanc. Vrai ou faux?
Oui, c'est après le drapeau tricolore, c'est 1848. Je dirais oui, c'est blanc. Oh non!
Il était blanc jusqu'en 1830.
Ah, mais voilà, mais on s'en
fout. Il était blanc. Oui, il était blanc.
Ah, oui. Mais jusqu'en 1830. Mais après la Restauration, il y a la monarchie de Juillet, il devient bleu-blanc-rouge.
Mais oui, mais ouais, j'ai confondu 1830 et 1848, voilà.
Ah oui, c'est bête ça.
C'est
la faute bête. Mathieu Noël.
Stéphane Bern.
Le Scot, la langue des Écossais, vient d'un dialecte apporté par les Vikings danois au 9e siècle. Quand on dit turtle, ça désigne le moment où l'on fait exprès de parler de façon inintelligible quand ce que l'on doit dire nous gêne. Vrai ou faux?
Ce qui me gêne, c'est la notion de volonté. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais comme j'en sais rien, je dirais que c'est vrai. C'est la catastrophe.
Tartel désigne le fait de présenter une personne à une autre, sauf qu'on a oublié le prénom de la personne que l'on présente.
En plus,
les Écossais ont un mot pour
c'est
ça.
C'est génial, mais ils sont géniaux, les Écossais.
Ouais, ils sont géniaux. C'est Olivier Pouls qui gagne.
Il y a une réclamation de mauvaise foi.
Ouais, sans avoir compris la question qu'on lui posait, il a gagné.
Et ça, c'est la méthode Pouls.
C'est avoir un peu plus de culture que les autres.
Bien sûr. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était aujourd'hui consacré à ces journalistes en vogue de l'histoire à l'occasion de la parution du numéro spécial 100 ans de Vogue Paris en partenariat avec Europe 1. Vous pensez, Stéphane, qu'un jour, peut-être dans le numéro 3712 d'Historiquement Vôtre, on fera votre portrait? Est-ce que vous me laisserez le faire ou vous appellerez plutôt un professionnel ce jour-là?
Non, je ne serai plus là et je...
Je ne serai plus là. Oui. Vous voulez dire que vous aurez
vieux.
Passé l'arme à gauche?
Oui, certainement.
Numéro
oui.
3700, il faudrait calculer. Je pense que ça va arriver plus vite que prévu.
Oui.
Ça fait 16 ans, ouais.
16 ans
ouais, non, oui, c'est trop.
Ça
là,
fait
c'est
moins.
Là, j'aurais arrêté. Là,
vous pensez?
Oui. Je serais dans les morts, vous voyez, ça sera bien.
En attendant d'être nous-mêmes un jour des personnages d'Historiquement Vôtre, on se retrouve demain pour simplement présenter cette émission.
Mais avec joie, Mathieu. À demain, les amis. À demain.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.